Les parts actualités.
Bonjour et bienvenue à l'émission Les Parts Actualités. Hélène Denis au micro et en manchette aujourd'hui. Nouvelle publication du Conseil supérieur de l'éducation, éducation inclusive, des exemples inspirants dans des écoles du Québec. Les personnes handicapées ne sont pas souhaitées au sein de l'appareil municipal. Sylvain Leblanc a mis sur pied un service de chiens de compassion. 585 000 $ pour étudier le diabète de grossesse. Aussi jouer au hockey sans quitter la rondelle des oreilles. Et en entrevue, je reçois Nicole Trudeau, amatrice d'art et de musique, non-voyante, auteure du site et du blog Nicole Trudeau Tout voir Québec, qui viendra nous parler d'une exposition au musée Stuart qui accueille les visiteurs non-voyants le premier mardi de chaque mois, ainsi que Michel Lamontagne, agent de développement au service de l'animation communautaire de la ville de Saint-Eustache, pour nous parler d'une formation en service à la clientèle avec des personnes handicapées. Nouvelle publication du Conseil supérieur de l'éducation, éducation inclusive, des exemples inspirants dans des écoles du Québec. Au fil des ans, la diversité des élèves s'est accrue dans le système scolaire québécois, générant des situations qui posent des défis de plus en plus grands en classe. Dans un nouvel avis intitulé « Pour une école riche de tous ses élèves, s'adapter à la diversité des élèves de la maternelle à la cinquième année du secondaire » et rendu public aujourd'hui, le Conseil supérieur de l'éducation s'est intéressé à des écoles du Québec qui se sont mobilisées pour mieux s'adapter à la diversité des élèves et concrétiser ce que le Conseil nomme une éducation inclusive, soit une voie qui consiste à adapter ses pratiques a priori à la diversité des élèves dans leur ensemble. Le Conseil a donc choisi de se pencher sur la réalité de la classe et de l'école, c'est-à-dire sur les pratiques qui se situent le plus près possible de l'élève. Pour ce faire, il a examiné des histoires d'amélioration et de réussite, soit celles de 10 écoles québécoises qui se sont adaptées avec succès à la diversité des élèves. En portant son attention sur les modalités de mise en œuvre des visées inclusives au sein de ces écoles, le Conseil a cherché à dégager les conditions favorables qui permettent à celles-ci de faire progresser chaque élève jusqu'au maximum de son potentiel. Le Conseil note toutefois que l'ampleur des défis que ces écoles doivent relever au quotidien commande des ressources additionnelles. Ainsi, les principales recommandations adressées au ministre de l'Éducation portent sur la réaffirmation des visées inclusives du système scolaire québécois, un soutien financier accru au milieu pour qu'ils se mettent en mouvement ou poursuivent leurs initiatives. Les personnes handicapées ne sont pas souhaitées au sein de l'appareil municipal. Depuis le 5 novembre, plusieurs médias ont rapporté la désolation de Valérie Plante à l'effet que le Conseil, tant du côté de son administration que de l'opposition officielle, n'est composé que de très peu de personnes issues de minorités visibles. Le concept de minorité visible est utilisé au Canada tant dans la législation que dans les statistiques officielles. Le RAPLIC, le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, a d'abord cru ou voulu croire que les personnes en situation de handicap faisaient partie de cette minorité visible, du moins dans la philosophie, de Projet Montréal et de son comité exécutif. Nous avons des questions pour Mme Plante et ses élus. Nous voulons qu'elle et ils nous disent pourquoi on ne parle jamais de nous. Nous nous questionnons sur le fait qu'on ne fait qu'effleurer du bout des lèvres tout ce qui a trait à l'accessibilité universelle, la mobilité réduite, l'exclusion sociale, la pénurie de logements adaptés, j'en passe, fulmine Laurent Morissette, président par intérim. Plusieurs promesses faisaient mention des personnes handicapées durant la campagne de Mme Plante. Maintenant qu'elle est élue, bien qu'elle en ait bien souvent l'occasion, jamais on ne lit ou entend qu'elle a parlé d'accessibilité universelle, clame Linda Gauthier, coordonnatrice des dossiers de plainte en discrimination. Le RAPLIC veut des réponses claires à ces interrogations. L'heure des faux fuyants est passée. Il est temps d'agir. Madame Plante, que comptez-vous faire pour inclure les personnes en situation de handicap au sein de votre administration? Le musée Stuart, dis-je bien, accueille les visiteurs non-voyants le premier mardi de chaque mois. Et j'en parle avec Nicole Trudeau, qui est analyste, plutôt amatrice d'art et de musique, qui est non-voyante et auteure du site et du blog Nicole Trudeau, trait d'union, toutvoir.québec. Bonjour, Madame Trudeau.
Bonjour, Madame.
Alors, vous êtes une amatrice d'art?
Oui, depuis toujours, en
oui.
fait. Je suis de l'univers musical, d'abord. Mais j'ai toujours eu une grande passion pour les différentes formes d'art et je m'intéresse depuis très, très longtemps à essayer de sensibiliser les institutions muséales à offrir des visites pour les personnes non-voyantes intéressées également à l'art.
Alors, j'imagine que ça vous réjouit de constater qu'il y a des musées qui sont ouverts, qui proposent des visites guidées pour les visiteurs non-voyants.
Oui, ça me réjouit beaucoup, d'autant que j'y ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup collaboré et essayé aussi d'expliquer comment, d'abord pourquoi on désire y aller et comment on présente évidemment les expositions.
Et justement, alors, comment se déroulent les visites guidées pour les visiteurs non-voyants au musée Stuart?
En fait, la visite en elle-même se déroule un peu comme toutes les autres visites guidées. Ce qui est particulier, c'est peut-être, par exemple, qu'on retient un nombre restreint de visiteurs pour avoir le temps de bien expliquer et que tout le monde puisse bien comprendre. Deuxièmement, il faut déjà que les guides soient sensibilisés. On ne peut pas défiler, disons, assez rapidement devant les tableaux en disant simplement « voici une peinture, voici… » Il faut s'arrêter, expliquer assez en détail comment les choses se présentent. Donc, il y a une adaptation à faire de la part des guides, à prendre le temps de bien expliquer pour que les personnes qui visitent, au fond, puissent se représenter eux-mêmes ce qu'il y a à voir. Moi, j'appelle ça « donner à voir les œuvres d'art
mm-hmm. ». Mm-hmm. Et qu'est-ce que nous donne à voir actuellement le musée Stuart?
Le musée a beaucoup de choses. D'ailleurs, le projet de visite guidée pour les non-voyants au musée Stuart, c'est un projet récent
oui.
qui a commencé cette année. Avec un peu de, disons, d'information, de préparation, d'expérimentation. Alors, présentement, c'est dans la collection permanente. On nous a proposé un projet, les grandes explorations et la découverte du nouveau monde.
Mm-hmm.
Ça s'appelle la collection Histoire et mémoire. Alors, le projet qui est présentement offert, se déroule en trois temps. La visite dure en général autour d'une heure et demie. Alors, à l'accueil, on nous propose d'abord de faire une reconnaissance du lieu extérieur, c'est-à-dire de longer les murs d'enceinte, de pouvoir toucher le mur, de distinguer les matériaux qui le constituent. Ensuite, on entre dans la cour, on nous explique l'orientation dans l'espace face au fleuve, etc.
Oui, on est sur l'île Sainte-Hélène au parc Jean-Drapeau.
Tout à fait, un très beau site, très agréable. Et ensuite, à l'intérieur, alors, ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est qu'il y a d'abord des cartes. Le musée a de très, très intéressantes cartes géographiques, les premières cartes du 16e siècle, évidemment, qui ne correspondent pas à ce qu'on fait aujourd'hui. Et la manière dont les cartes sont présentées, c'est intéressant. Elles sont placées comme dans des tables, dans des tiroirs coulissants, donc à l'horizontale, elles sont recouvertes évidemment d'un verre et le guide à ce moment-là, comme nous ne sommes pas nombreux...
Vous êtes combien environ?
Nous permet de parcourir, de toucher la vitre, enfin de redessiner, si vous voulez, avec le geste, les contours, les frontières,
mm-hmm.
etc.
Vous
Ensuite,
dites, madame...
Ensuite, il y a la présentation des exhibits et à la fin, il y a une partie originale, intéressante, qui est une exploration tactile. On se regroupe autour d'une table et on nous permet de toucher des objets originaux, des objets de navigation, différents matériaux. Alors ça, c'est quand même une expérience unique et extrêmement enrichissante. Et puis, aussi, on nous propose des lectures, par exemple, dans le journal de bord de Champlain. Alors, c'est une visite extrêmement riche, présentement, extrêmement intéressante.
Et quand vous dites que vous pouvez toucher aux œuvres, est-ce que ce sont seulement les non-voyants qui peuvent y toucher?
Ah, ben oui.
Ah oui, d'accord, c'est vraiment...
Oui, c'est spécifique. spécifique à la visite actuelle que le musée nous propose. C'est un projet particulier. Et ça, c'est vraiment une expérience unique. Alors, c'est dans un univers historique. Et c'est,
est-ce que, Mme Trudeau,
pardon?
Est-ce que le musée va organiser d'autres expositions temporaires pour les non-voyants?
Ben, je dirais pas que c'est des expositions temporaires. Ça, c'est un projet qui a été fait à partir de la collection permanente du musée, pour l'instant. Et je sais que le musée planifie un nouveau projet pour nous, pour le printemps.
Ah oui?
Et là, la prochaine visite, c'est le 5 décembre. Mardi, le 5 décembre, alors les gens qui sont intéressés peuvent téléphoner au musée Stuart, s'inscrire, parce qu'évidemment, il faut s'inscrire. Et chaque personne non-voyante intéressée d'aller doit être accompagné d'une personne voyante.
Parfait. Et vous acceptez quoi? Des groupes d'un minimum de 6 personnes et d'un maximum de 10 personnes? C'est ce que j'ai sur mon communiqué. Est-ce que c'est exact?
Oui, c'est exact. C'est-à-dire de 3 à 5 personnes non-voyantes accompagnées chacune d'une personne voyante.
Très bien. Tous les premiers mardis du mois de 10 à midi. Merci beaucoup, Mme Trudeau. Amatrice d'art et de musique non-voyante, auteure du site et du blog qu'on ira visiter, Nicole Trudeau, Tout voir Québec. Merci.
Je vous remercie. Au revoir.
C'est dans l'appel.com, Sylvain Leblanc a mis sur pied un service de chien de compassion. Il arrive que les sentiments de tristesse, d'isolement et de solitude, tout comme le stress causé par un traumatisme, soient difficiles à combler, voire à guérir. C'est pour essayer d'y contribuer bien noblement que Sylvain Leblanc a initié un service volontaire baptisé « Chien de compassion, région de Québec ». Parfois, la candeur et la pureté animalière n'ont pas d'égal pour leur effet libérateur. Sans prétention, le service bénévole offert par des propriétaires d'Espagnols français ne cherche absolument pas à s'attribuer à des vertus autres que de simplement faire du bien aux bénéficiaires qu'ils croisent. Effectuées sans frais ni dons, les visites canines se veulent tout bonnement complémentaires à des sessions de zoothérapie ou encore à des interventions de thérapeutes professionnels. L'inspiration initiale vient d'un programme similaire instauré aux États-Unis dans les années 2000 sous l'appellation « Comfort Dogs ». Ses membres se déplacent sur des lieux de catastrophes et de drames majeurs comme des fusillades pour aider à atténuer la peine des personnes touchées de près. Le service Chien de compassion est disponible à tous ceux et celles qui pensent en tirer avantage pour eux ou elles, pour des proches. Nous intervenons principalement en institution, dans des résidences pour aînés, auprès d'organismes de soins pour personnes autistes ou à mobilité réduite, mais aussi auprès de particuliers qui en manifesteraient le besoin. Par exemple, récemment, un monsieur qui venait de divorcer et avait dû se séparer de son chien. Attristé par la situation, il a profité de notre présence pour flatter Aramis et le serrer dans ses bras. Ça lui a fait oublier sa douleur pour un instant. Pour plus d'informations ou prendre contact, 581-984-4797, 581-984-4797 ou cherchez « Chien » au pluriel de compassion Région de Québec sur Facebook. Dans le quotidien.com, grâce à un support financier offert par la Fondation de ma vie, le professeur-chercheur Luigi Bouchard a reçu une subvention de 585 000 $ sur 3 ans de la part de l'Institut de recherche en santé du Canada. La recherche de son groupe vise à détecter dès le premier trimestre le diabète de grossesse afin de diminuer les risques chez l'enfant en améliorant la santé de la mère. M. Bouchard a expliqué au quotidien son intérêt de longue date pour les causes de l'obésité, notamment en ce qui a trait à l'hérédité. Mais en cours de route, un nouveau concept a été développé qui est à l'origine développementale des maladies, a-t-il expliqué. Selon ce concept, des maladies peuvent trouver leurs origines ou dans les conditions de développement du fœtus. C'est là qu'interviennent les recherches du Dr Bouchard sur le diabète de grossesse, aussi appelé diabète gestationnel. Cette maladie se manifeste par une augmentation de la glycémie vers la fin du deuxième et au troisième trimestre de la grossesse. Les enfants dont la mère avait le diabète de grossesse ont plus de risques de développer le diabète et l'obésité, a-t-il indiqué. Depuis 2006, le centre de recherche où il se trouve amasse des données sur des femmes enceintes et sur leurs enfants. On recrute des mères enceintes entre 6 et 15 semaines et on leur fait subir une batterie de tests. Ensuite, on les revoit au deuxième trimestre. Il y a aussi un suivi de 5 ans sur la santé de la mère et de l'enfant. La recherche financée par l'Institut vise à voir s'il est possible de pouvoir déceler le diabète de grossesse avant le deuxième trimestre. On travaille sur le développement de biomarqueurs au premier trimestre. Est-ce qu'il y a des biomarqueurs comme le glucose qui permettent de savoir qui va faire du diabète de grossesse? Ainsi, on pourrait commencer le traitement plus tôt pour une meilleure santé de la mère et de l'enfant, a poursuivi le chercheur. Une formation sera offerte le 30 novembre prochain sur le thème de l'accueil en service à la clientèle avec des personnes handicapées. J'en parle avec Michel Lamontagne, agent de développement au service de l'animation communautaire de la ville de Saint-Eustache. Bonjour, M. Lamontagne.
Bonjour, comment allez-vous?
Oui, ça va bien, merci. Je viens de découvrir que les gens de Saint-Eustache, on les appelle les Eustachois ou les Eustachoises.
Oui, exact.
Alors, pourquoi une formation de ce type, M. Lamontagne?
Ça fait quelques années que on a le groupe Pro Service qui a été monté de toutes pièces par des employés municipaux. L'objectif, dans le fond, c'était de donner une formation continue au niveau du service à la clientèle à tous les employés, col blanc, col bleu et autres professionnels de la ville de Saint-Eustache. Donc, pour qu'on puisse placer le citoyen au centre de nos interventions.
Très bien.
Donc,
et à qui s'adresse cette formation?
Vraiment à tous les employés de la ville de Saint-Eustache.
Ah oui, tout le monde. Les Eustachois et toutes les Eustachoises.
Non, les employés.
Les tous employés,
qui,
oui, d'accord.
Tous ceux qui œuvrent à la ville de Saint-Eustache, qui sont en contact de près ou de loin aux Eustachois et Eustachoises.
Très bien.
Donc, l'objectif, dans le fond, c'est d'améliorer notre service à la clientèle, évidemment, mais aussi d'en faire comme notre préoccupation principale, la préoccupation principale étant le citoyen. Mm-hmm. Donc, dans cette optique, on a développé une formation vraiment au niveau du service à la clientèle et on a évolué là-dedans. Par la suite, on est passé à des phases différentes parce que les citoyens sont différents, donc on rencontre différents citoyens. La première phase était une formation au niveau du service aux citoyens, mais face à des citoyens vivant avec un problème de santé mentale, qu'on rencontre souvent dans nos arénas, qu'on rencontre aussi un petit peu partout là, dans nos lieux
bibliothèques.
Exact. Mm-hmm. Puis les employés, évidemment, sont pas nécessairement tout le temps équipés pour pouvoir offrir un service adéquat et surtout, vit avec certaines barrières là, suite à tout ça.
Oui, ça peut aider à faire tomber des préjugés.
De faire tomber des préjugés, autant d'un côté que de l'autre aussi, parce que souvent, en connaissant l'inconnu, dans le fond, ben on se rapproche de lui. Tu sais. Mm-hmm. Donc, on crée un lien plus près face à ça. Donc, on a fait affaire avec un partenaire là, de la ville de Saint-Eustache qui nous a aidé à développer là, ce projet. Là, voilà. Là, maintenant, on est rendu à la formation pour les citoyens qui vivent avec un handicap. Mm-hmm. Dans le fond, là, on est rendu à cette étape-là. Encore une fois, on fait affaire avec un partenaire parce que, on a beau vouloir être des employés, développer le service à la clientèle, mais c'est pas nous les experts. Hein. Il y en a qui travaillent là-dedans à tous les jours.
À longueur d'année,
oui. Oui, c'est ça.
Qui donne la formation?
Ceux qui donnent la formation cette année, là, ça va être...
Vous avez un trou de mémoire.
Oui, c'est ça.
Il y a une équipe.
Ça s'appelle la QLPH, en fait. C'est l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées.
Oui. Non, ça va.
Donc, c'est eux qui vont donner la formation cette année, donc qui va avoir lieu jeudi et vendredi, qui vient là.
Ah oui, d'accord. C'est sur deux jours, 30 novembre et 1er décembre.
C'est deux périodes de 3 heures.
Oui. Le matin, l'après-midi?
Pour jeudi, ça va être l'après-midi, puis pour vendredi, c'est l'avant-midi. Mm-hmm. Donc, c'est encore une fois réservé qu'aux employés de la ville de Saint-Eustache, mais on va parler cette fois-ci de comment accueillir facilement les personnes vivant avec un handicap.
Oui.
Donc, on avait déjà donné jadis avec une formation de ce type, mais on est tout le temps à l'affût là, de vouloir reformer, se remettre encore au diapason. Là,
oui, puis j'imagine qu'il y a des nouveaux employés.
Aussi, exact. Ouais.
Et qu'est-ce qu'on va y apprendre dans cette formation?
D'abord, on va y apprendre à différencier certaines caractéristiques de certains handicaps. Donc, ce qui nous va nous permettre aussi de réduire un peu l'appréhension ou, comme je le disais tantôt, se rapprocher dans le fond du citoyen, tu sais, en étant un peu empathique face à ce qui va vivre, là. Mais ce qu'il vit quand il fait face à un service municipal.
Mm-hmm.
Donc, parce qu'on le sait, un citoyen qui se présente dans un service municipal, un Eustachois qui vient dans un service municipal, peut être stressé, peut avoir des préoccupations. Puis nous, ce qu'on veut, c'est réduire tout ça.
Ouais.
Donc, réduire le stress, la préoccupation, puis tout ça. Puis en plus, en connaissant un peu ces caractéristiques, on va se rapprocher, on va les réduire encore plus. Donc,
parfait.
C'est un peu ce qu'on veut faire. Donc, on va connaître ces caractéristiques pour mieux identifier. Puis après ça, on veut apprendre comment réduire les obstacles face à l'intervention.
L'accessibilité.
Oui, c'est ça.
C'est très important.
Oui, exact. Mm-hmm. Puis j'ai je sais pas si vous connaissez Hélène Allard.
Non.
Ce qui est une joueuse de basketball en fauteuil roulant, oui. Là, au niveau de l'équipe canadienne qui ont joué au niveau des Paralympiques,
mm-hmm.
Elle me dit une phrase que je trouve vraiment géniale, c'est que les milieux sont pas nécessairement handicapants, c'est plutôt la façon qu'on aborde. En fait, les personnes ne sont pas handicapées, c'est ça. Les personnes ne sont pas handicapées, c'est les milieux qui sont handicapants.
Oui.
Donc.
Bien dit.
Exact, c'est mm-hmm. ça. Puis je trouve vraiment génial, ça dit tout ça. Quand on arrive dans un bâtiment, qu'on ait un handicap ou qu'on n'ait pas, si une personne avec une poussette veut rentrer dans un bâtiment puis il n'y a pas de rampe d'accès, c'est du travail de pouvoir y avoir accès à ce bâtiment.
Ça peut gâcher une journée.
Exact.
Merci. Vous êtes inspirant, M. Lamontagne. La ville aussi l'est. Saint-Eustache, une ville du Québec, chef-lieu de la MRC des Deux-Montagnes dans les Laurentides, agent de développement au service de l'animation communautaire de la ville de Saint-Eustache. Je rappelle que la formation sera donnée sur 2 jours, 30 novembre et 1er décembre. Formation sur le thème de l'accueil en service à la clientèle avec des personnes handicapées. Merci, M. Lamontagne, et puis
merci.
Bonne journée de formation.
Merci beaucoup. Au revoir.
Sur le site de Radio-Canada, jouer au hockey sans quitter la rondelle des oreilles. Le bruit des patins et des bâtons sur la glace est le même, les encouragements qui fusent du banc des joueurs aussi. Le sifflet des arbitres retentit comme dans n'importe quelle autre aréna et la rondelle est aussi âprement disputée le long des bandes que partout ailleurs. Comment deviner que d'un bout à l'autre de cette patinoire de Leduc en Alberta, les joueurs qui évoluent sont aveugles? Sans yeux pour voir, c'est par l'ouïe que les athlètes se sont guidés sur la glace lors du tournoi de hockey sonore de l'Ouest organisé dans cette ville ce week-end. La rondelle, plus grande que dans les joutes ordinaires, émet un tintement qui permet aux joueurs de la repérer, d'où le nom de hockey sonore donné à la discipline. Certaines passes, il est vrai, n'aboutissent pas directement sur la palette, mais le rythme de jeu demeure rapide, pimenté de mises en échec et d'arrêts de la mitaine dignes des meilleurs cerbères. C'est souvent des handicaps que les joueurs ont développés tard. Plusieurs ont joué au hockey et tu le vois, les meilleurs ont un très haut calibre. On a des juniors majeurs et des juniors A. Les différentes équipes de malvoyants s'organisent autour de la Ligue canadienne de hockey sonore, la première du genre dans le monde, créée à Toronto en 1962. Son directeur général, Matt Morrow, a organisé le tournoi. Nous avons un tournoi national depuis 5 ans et c'est la deuxième année que nous avons un tournoi régional dans l'Ouest, explique-t-il. Le hockey sonore a planté depuis 4 ans ses racines aux États-Unis. D'ici 2020, la Ligue canadienne espère bien pouvoir organiser un tournoi international avec des équipes provenant d'au moins 4 pays avant de se lancer dans l'aventure paralympique. Une brève en terminant dans le cadre du mouvement national « Mardi, je donne » qui a lieu aujourd'hui même, 28 novembre, Vues et Voix et le Canal M font appel à la générosité du public pour les soutenir dans leur mission. Vues et Voix est un organisme à but non lucratif qui, depuis 1976, produit des livres sonores adaptés et des émissions de radio destinées aux personnes qui ne peuvent lire l'imprimer en raison d'une limitation visuelle, motrice ou d'apprentissage. Les livres sonores adaptés leur sont disponibles gratuitement via le Service québécois du livre adapté, un service de la Grande Bibliothèque. Sa radio, Canal M, offre une programmation axée sur l'actualité du handicap et l'accessibilité à l'éducation, à la santé, au travail et à la culture. Vous trouverez sur la page Facebook de Vues et Voix des informations sur la campagne « Mardi, je donne ». C'est aujourd'hui que ça se passe. facebook.com/Vues et Voix. Merci à tous et à toutes. Voilà, c'est tout pour les paractualités de ce mardi 28 novembre. Merci à mes invités, Nicole Trudeau et Michel Lamontagne. Et merci à mon équipe, Anne-Laure Janson, ainsi que Jean-Sébastien Laliberté. Ici Hélène Denis, bonne journée. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. À très bientôt.